Nous sommes une sorte de contradiction interne dans la société.
On n'est pas des cadeaux.
La structure de base de la société, la famille, ne nous convient pas.
Sur Radio Canu, la plus...
Encule.
Oh. Enculé.
Oh. Enculé. Ou enculé.
Enculé.
La plus... Les radios.
Entre le stade, le PMU et le Bricorama, ils sont quand même très ghetto, les hétéros.
On n'est pas des cadeaux.
Des cadeaux.
Émission transpédéguine et féministe.
Est-ce qu'on appartient à l'humanité? Est-ce qu'on relève de l'humanité si on n'est ni un homme ni une femme?
Cadeaux.
C'est pas en demandant poliment, vous ne voudriez pas nous enlever nos autographies psychiatriques qu'on va l'obtenir. C'est en tapant des points sur la table, c'est en occupant les lieux. Personne ne nous écoutera si on ne montre pas à la société la violence qu'elle fait subir.
L'hétérosexualité, c'est aussi naturel que l'enclos électrique dans lequel on parque les vaches.
Bonsoir.
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 Salut.
Alors aujourd'hui, 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida, on a voulu laisser la parole à des personnes vivant avec le VIH pour qu'elles nous racontent leurs expériences de cette épidémie. Mais avant ça, quelques mots pour vous redire pourquoi il nous semble important de continuer à parler du VIH.
Depuis l'apparition de l'épidémie, au début des années 80, au niveau mondial, on estime à plus de 25 millions le nombre de personnes qui sont mortes des suites du sida. Et sur des personnes qui vivent avec le virus, c'est encore plus important, à peu près 36,7 millions, dont seulement 18,2 bénéficient d'un traitement. Et en France, plus de 150 000 personnes vivent avec le VIH, et aujourd'hui encore, on compte environ 6 000 nouvelles contaminations par an, un chiffre qui semble stable depuis 2007, et environ 25 000 personnes ignorant leur séropositivité.
L'épidémie se caractérise toujours par de fortes inégalités concernant les risques de contamination. Les deux groupes les plus touchés sont les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, 43% des découvertes de séropositivité en 2015, et les personnes migrantes, ce qui représente 38% des découvertes, dont 3 quarts sont nés en Afrique subsaharienne. L'enquête Parcours a aussi montré que 35% et 50% des personnes migrantes originaires d'Afrique subsaharienne et vivant avec le VIH ont été contaminées après leur arrivée en France, et particulièrement celles qui vivent en situation de précarité.
Les inégalités concernent aussi l'accès au traitement. Cet accès reste évidemment inégalitaire dans le monde, notamment dans les pays dits du Nord et du Sud. Régis Samba Akunzi l'a montré dans son interview par Case Rebelle, qu'on a rediffusé récemment dans cette émission. Ces dernières années, on parle régulièrement de prévention combinée, avec en particulier les tests rapides, les TROD ou les autotests, le TPE, traitement d'urgence après un risque d'infection, ou la PrEP, le traitement préventif avant prise de risque. Ou encore, pour les personnes séropositives, le TASP pour Treatment as Prevention, une personne qui bénéficie d'un suivi médical et d'un traitement efficace pour voir sa charge virale diminuer au point de ne pas risquer de contaminer ses partenaires.
Oui, et en effet, c'est la combinaison de ces moyens de prévention qui doit permettre de lutter plus efficacement contre l'épidémie au niveau mondial. L'ONU SIDA a ainsi fixé les objectifs 90-90-90. À l'horizon 2020, 90% des personnes vivant avec le VIH devraient connaître leur statut sérologique. 90% des personnes séropositives et dépistées reçoivent un traitement antirétroviral durable. Et 90% des personnes bénéficiées d'un traitement ont une charge virale durablement supprimée.
Et aujourd'hui, grâce au traitement, le sida peut être considéré comme une maladie chronique, donc une maladie avec laquelle on survit, potentiellement longtemps, mais pas sans désagréments. L'espérance de vie des personnes qui vivent avec le VIH a augmenté d'environ 10 ans en Europe et en Amérique du Nord depuis l'apparition des multithérapies en 1996, et elle tend ainsi à rattraper celle de la population générale. Mais vivre avec le VIH expose à des complications qui s'apparentent à une sorte de vieillissement accéléré à cause du système immunitaire affecté, à cause de l'inflammation causée par le virus, des possibles co-infections, des effets indésirables des traitements, d'axes de résistance ou encore d'interaction. Dans les pays à revenus élevés, 31% des personnes qui vivent avec le VIH sont âgées de plus de 50 ans. Et aujourd'hui, ces personnes font face à des défis spécifiques, comme par exemple jusqu'à 5 fois plus de risques de développer des autres maladies chroniques.
Et ces problèmes de santé sont liés aux conditions de vie des personnes séropositives. À la permanence droits sociaux d'ACT UP Paris par exemple, on constate de plus en plus de difficultés à obtenir l'allocation adulte handicapé ou à vivre avec le RSA, à trouver un logement ou à renouveler un titre de séjour, qui produisent souvent des situations de précarité et d'isolement.
Et donc c'est pour donner à comprendre cette situation qu'on n'est pas des cadeaux, on a voulu laisser la parole à ces personnes et vous la transmettre dans cette émission. Car ils et elles ont bien des choses à vous raconter. Pour les rencontrer à l'invitation des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, il y a deux membres de l'émission qui sont allés découvrir pendant une demi-journée le séjour de ressourcement qu'elles organisent dans la maison de vie de Carpentras en octobre. Et depuis cette visite, un reportage a été préparé.
Alors, où est-ce qu'on est ici? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? C'est Lola Rosa.
Eh bien, mon cher enfant, nous sommes dans la maison de vie qui appartient à la fondation Fight AIDS Monaco, voilà, dont la présidente, c'est Stéphanie de Monaco. Nous sommes accueillis pour un séjour qui accueille des séropositifs, voilà. C'est un séjour que nous, les sœurs, nous avons souhaité organiser dans la tradition de ce que les sœurs françaises ont imaginé depuis maintenant, c'était en 1993, je crois, pour ne pas dire de bêtises, où des sœurs ont imaginé un séjour où on rassemblait des séropositifs pour évoquer leurs problématiques, les traitements, les effets indésirables, et pour prendre soin de soi. Voilà. Alors surtout qu'à l'époque, en 93, c'était assez douloureux, c'était des séjours où beaucoup de personnes ne revenaient pas l'année d'après, etc., etc. Voilà. Donc on continue toujours dans cette tradition à accueillir des séropositifs, en fait. Là, j'avoue que cette année, le public, c'est plutôt des séropos vieillissants et qui vivent avec le VIH depuis, pour certains, 30 ans, presque. Donc ça veut dire qu'ils ont été contaminés dans les années, fin des années 80, début des années 90, pour certains. Donc ils ont un peu tout connu. Voilà, ça a été un peu le parcours du combattant. Il y en a, c'est vraiment des survivants. Des échanges très très riches, des personnes qui ont des parcours de vie et d'engagement aussi, parce que là, je crois que je fais le constat que sur ce ressourcement, on a quand même 4-5 personnes, j'ai envie de dire, qui ont été et qui sont aujourd'hui encore très engagées dans des associations de séropos, en fait, hein. Des hétéros comme des homos. Donc ça donne des échanges très vifs, parce qu'il y a des personnalités qui sont très fortes, mais c'est très chouette, en fait, parce que c'est des échanges vrais, où on ne tourne pas autour du pot, pas de langue de bois. Non, c'est vraiment très fort comme échange. En fait, ce n'est pas forcément comme peuvent le faire certaines associations avec des temps très formels, machin, tout ça, etc. C'est peut-être parce que nous, les sœurs, on est un peu ingérables. Voilà. Donc c'est un peu des fois à brûle-pourpoint. Ça peut être autour du repas, ça peut être autour du goûter, autour du café. Alors évidemment, on propose des activités, hein, donc ça peut être aussi dans des moments d'activité, hop, il y a des trucs qui sortent comme ça. Et puis, ou alors ça peut être au détour d'une balade qu'on fait en vélo, parce qu'on a fait une balade en vélo cet après-midi, ou autour, voilà, d'une table, d'un moment convivial, voilà.
Et quel est le programme ce soir?
Ce soir, nous avons décidé d'organiser une petite cérémonie qui est aussi une tradition dans les ressourcements des sœurs. On appelle ça la cérémonie des Lumières. qui permet de faire appel à un de nos vœux que nous avons prononcé en devenant sœurs, le vœu de devoir de mémoire. Donc nous allons proposer aux ressourcés qui sont là un genre de petite cérémonie qu'on a répétée cet après-midi où on va déplier un triangle rose, un triangle noir, un ruban rouge. On va allumer des bougies avec des petites choses qu'on va dire autour. Et en même temps, on va inviter les ressourcés à poser une bougie et pour ceux qui le souhaitent, une parole pour se souvenir des amis, des amants, des amantes, des plans cul, etc., qu'on a croisés, qui sont peut-être plus là. Et puis à ceux qui sont ici, dans nos cœurs, voilà. Donc ça a été un moment très chouette. Et puis on avait envie de finir quand même ce moment de souvenir en proposant le verre de l'amour. Voilà, on va donc ensuite s'embrasser et trinquer un bon coup. À l'avenir. Voilà.
Play. Moi, je viens de Lyon, donc j'ai fait un petit chemin pour venir dans cette maison de vie spéciale pour Séropo, à ce que j'ai entendu dire, avec les sœurs. Les sœurs qui organisent ce séjour. Alors, moi, je suis venue un peu par hasard dans ce lieu de vie. Non, pas si hasard que ça, j'avoue, puisqu'il faut venir de la part d'une assoce. Mais je ne m'attendais pas à découvrir, je ne savais pas qu'il y avait un lieu comme ça, à Carpentras. C'est vraiment beau. Et faire du beau pour nous, ça nous fait du bien. Moi, personnellement, je me suis laissée guider par les sœurs qui ont vraiment beaucoup de dynamique. Dynamique, dynamite. Enfin, c'est des petites bombes, quoi. Des petites bombes de jets d'énergie. Elles proposent beaucoup de choses autour du bien-être, autour du ludique. Mais tout ça avec un courant de... Tu y vas si tu veux, tu peux te reposer, tu fais ce que tu veux à ton rythme, puisque étant séropo, on a des moments de haut, plusieurs rythmes dans la journée de fatigue et d'énergie. Donc à toi de suivre le courant et l'activité que tu as envie de faire. Ça me remue beaucoup quand même. Ça me remue beaucoup. Il y a du confort, du repos et je prends ce qu'il y a à prendre. Je vis vraiment le moment présent sans rien attendre en fait, sans rien attendre, je prends. En fait, il y a des histoires passionnantes. Parce qu'en fait, je trouve que les gens malades, bon, séropo particulièrement parce que je le suis, donc je connais plus, on a tous des points communs dans cette pathologie, des côtés rebelles, des côtés combats, vindicatifs, des combats différents, femmes, hommes, enfants, beaucoup d'identification. Parce que moi, j'ai pas choisi de trop le terrain associatif à Lyon, parce que je voulais pas justement rentrer trop dans cette maladie, en parler trop souvent. Je voulais un peu l'oublier, vivre avec, mais en l'oubliant. Et là, je me suis fait un bain de popo, quoi. Un bain de popo.
Ça veut dire quoi, un bain de popo ?
T'es peau, t'as pas de peau. Je me suis mis un bain de popo dans tous les sens, avec des gens très différents d'origine, d'orientation spirituelle, religieuse, amoureuse. Mais tout ça m'est bien égal. Je m'y retrouve. Parce qu'après tout, au-delà de tout ça, on est tous pareils, quoi. C'est toujours beaucoup de manque d'amour. Toutes ces blessures, c'est vraiment des histoires d'amour, quoi. Voilà. Il y a un petit chez nous quelque part ailleurs et ça fait plaisir à savoir que ça existe. Ouais, ça me fait plaisir. de savoir que il y a au retour, on n'est pas perdu dans la nature, et que si on veut, que si on en a envie, l'énergie, il y a des contacts. Voilà, j'ai 52 ans, j'ai été séropo à l'âge de 26 ans, c'était tout jeune. Il y a cette chose, maintenant il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour la prévention, vous êtes super au courant, et mais personnellement c'est plus à moi à porter ça, parce que j'ai d'autres choses à porter déjà. Faites gaffe, quoi, on vous l'a assez dit, ça fait des années, et il y a un petit ange gardien près de vous qui prend ça en charge, mais faites gaffe, parce que franchement, voilà, quoi, on dit que c'est chronique, mais franchement, si ça peut vous éviter, si vous pouvez l'éviter dans votre vie, prenez pas ce chemin-là, quoi, voilà, je sais pas si vous pouvez me comprendre, mais... nous, quand ça m'est arrivé, c'était tous les débuts, on n'était pas du tout au courant comme ça. Vous avez tous les jeunes, les 30, les quarantenaires, faites gaffe, quoi. Vous avez des excuses, mais presque plus, quoi. Bonne chance.
Originaire d'Orléans et je suis au ressourcement pour me ressourcer, ça va de soi, et voilà, et pouvoir échanger les expériences de vie avec d'autres personnes séropositives comme moi. Voilà, les sœurs de la perpétuelle indulgence, je les connais à peu près depuis 20 ans, je les ai rencontrées lors de Gay Pride. J'ai assisté à quelques cérémonies, messes et autres, et j'ai une copine transsexuelle qui m'a fait passer un message comme quoi, par Séronet, un réseau internet de l'association Aide, comme quoi il y avait un ressourcement à Carpentras, donc je me suis vite décidé, j'ai inscrit mon copain avec moi. Mon copain ne connaissait pas le ressourcement, donc c'était une bonne occasion de lui faire connaître et de lui faire découvrir les plaisirs charnels des sœurs. C'était une boutade. C'est la première fois que je viens à la maison de vie de Stéphanie de Monaco, mais j'ai fait un ressourcement il y a une dizaine d'années ou une quinzaine dans le Luberon avec les sœurs de la perpétuelle indulgence aussi. Et j'avais passé une semaine extraordinaire de rire, de joie, d'échange, d'expérience, tout simplement. Voilà. Pour l'instant, j'ai rien fait, je ferai rien. On est là pour se reposer, on est là pour rigoler, on est là pour échanger nos... Non, il y a quelques ateliers, des ateliers spécifiques aux sœurs de la perpétuelle indulgence. Mais moi, je suis pas très... vu mon âge très avancé, j'ai pas très envie de participer à ces petits ateliers, toutefois, assez bon enfant. J'ai passé l'âge.
Et alors, toi, tu viens pour quelle raison ?
Pour coucher. Pour l'instant, j'ai pas couché. Non, c'est uniquement pour rencontrer des gens qui... en plus de ça, on est pratiquement tous plus ou moins... Enfin, quoi, je suis très vieux, moi, mais c'est à peu près la cinquantaine. Et c'est intéressant de voir ce que les autres ont vécu, de connaître éventuellement leurs problèmes, et puis aussi de parler de mon expérience à moi par rapport au virus. Voilà. 34 ans de séropositivité, c'est énorme. Je fais partie des dinosaures, hein, mais... je suis aussi là pour lancer des messages. C'est une maladie que tout le monde peut avoir gracieusement. Et j'aimerais bien dire que l'amour sans risque n'existe pas. Il peut y avoir différentes déviations liées à l'alcool, aux rigolades et autres, mais toujours utiliser le préservatif, c'est la solution la plus importante et la plus sûre contre ce virus et les IST en général, les infections sexuellement transmissibles.
Et pour toi, en 34 ans, qu'est-ce qui a changé ?
Tout et rien. Ce qui a changé, c'est ma vie, qui a changé, c'est ma vision des autres, ma vision de mon environnement. J'ai appris avec ce virus à aimer les autres. Et c'est la meilleure chose que j'ai réussi à comprendre et à trouver. Aimer les autres, c'est aussi s'aimer soi-même. Voilà. Je serais tenté de dire qu'il faut continuer à faire de la prévention, à parler dans les médias du virus qui tue encore des gens. Et c'est vrai que les traitements sont devenus de plus en plus efficaces. On peut très bien être contaminé par ce virus. On n'en guérit pas, certes, mais on a des traitements qui permettent de prolonger la durée de vie, tout simplement. Donc protégez-vous et protégez les autres. Ni, 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 ni.
DJ, Prime Club Minister, play my track, cause the beat is sinister. DJ, DJ, Prime Club Minister, play my track, cause the beat is sinister. Strobe light, blink, blip, blip, blink, blink. I feel like somebody roofied my drink, drink, drink. Dance floor politics, asses out, your shorty, you's about to get worked the fuck out. Some bitches came, some bitches conquered. Some bitches got laid down in the slaughter. Bad motherfucker, bad, bad motherfucker. What a sad motherfucker, let me duff this motherfucker. Pretty girls, traveling packs. So while you bitch made niggas stop talking back. So while you bitch made niggas better count your sex. So while you bitch made niggas better watch your backs. It's a war out here, the real versus the gimmicks. They all wanna be stars, but their hearts ain't in it. They all wanna go far, but it's survival of the fittest. So a spitter killer likes me, come around and fucking ends it. See it in her eyes, cats wanna play. Let me roll the dice, see what I can lay. Lay them feeling right, see what I can slay. Haze boogie life, fiends like to wild out, gullies like to wild out. See it in her eyes, cats wanna play. Let me roll the dice, see what I can lay. Lay them feeling right, see what I can slay. Haze boogie life, fiends like to wild out, gullies like to wild out.
Where she come from?
How this bitch getting here? What this faggot doing here? Sludge fucker, listen, ear attack from the back. I'ma leap from your sleep. Somebody give me a stab so I can hurry these fucking sheep. When my shit drop, it hits the 6 million circulation. Illuminati, who? Illuminati Nation. The great white hype. Yes, Miss Blanco. Got all these cats shook. From LA to Toronto. Got all my flights booked. Cape Town to London. Paris to Geneva. Tokyo to Compton. The Thriller and Vanilla. Late up counting Thriller. Only top pillar. Only rocks, my nigga. Yeah, we rock, my nigga. To the top, go figure. The great white hype. Miss Blanco game killer.
I think they forgot what this supposed to sound like, scan.
See it in her eyes? Cats wanna play. Let me roll the dice, see what I can lay. Lay them feeling right, see what I can slay. Haze boogie life, fiends like to wild out, gullies like to wild out. See it in her eyes? Cats wanna play. Let me roll the dice, see what I can lay. Lay them feeling right, see what I can slay. Haze boogie life, fiends like to wild out.
Donc moi je m'appelle Nadia,
J'ai 35 ans de séropositivité. Et si je me suis inscrite à ce séjour avec les sœurs, c'est que je connais les sœurs déjà depuis pas mal d'années. Et donc, chaque séjour m'a épanouie, m'a ouverte un peu plus en tant que femme. Parce que dans la vie de tous les jours, et ben, c'est vrai qu'avec 35 ans de séropositivité, le corps se transforme, on n'a plus 20 ans, et puis donc ce sont des personnes qui m'ont apporté beaucoup par rapport à en tant que femme. Voilà, donc je les respecte beaucoup et je savais qu'un séjour avec elles, ça allait me reposer parce que j'ai déménagé de Paris, donc il y a 10 ans, et donc je me suis installée dans les Alpes. Donc à l'époque, il y avait encore un local de aide, on pouvait tous entre patients se rencontrer parce que c'est quand même un petit village dans la montagne, c'est pas comme dans les grandes villes, Marseille et Paris. Et puis le local a fermé, on s'est tous retrouvés malades tout seuls, ça a été très dur et obligé pour ceux qui peuvent se déplacer de prendre le train ou de trouver des covoiturages pour ne pas rester seul et pouvoir participer à des ateliers ou à des sorties. Voilà, je voulais surtout pointer ce côté-là pour les personnes VIH qui vieillissent, femmes ou hommes, homosexuels. Donc de ne pas oublier ces personnes parce qu'elles ont fait partie aussi du combat pour le sida. Et donc il ne faut pas les oublier, ces personnes-là. Voilà. Là, j'ai passé 2 mois très fatigant. J'ai dû adhérer à une autre mutuelle parce que ma mutuelle donc avait changé de tarification. J'étais pas au courant. Donc je me suis retrouvée avec une surprise de 600 euros de frais hospitaliers avant la fin de l'année. Plus encore à rechercher une mutuelle, ça fait qu'il a fallu que je cours pendant 10 jours pour faire toutes les mutuelles. Et ça a été de bouche à oreille, c'est des jeunes donc d'associations sur Paris qui m'ont accompagné à la Mutuelle du Soleil en m'expliquant que voilà, et c'est bien de pouvoir avoir ce retour aussi avec les jeunes, les anciens, pour qu'on puisse tous continuer ce combat qui n'est pas terminé. Donc si je suis ici à ce séjour, c'est pour pouvoir me reposer parce que je suis fatiguée, épuisée. Je sors aussi d'une opération pour les yeux, donc par rapport à la dystrophie, ça m'a fait tomber toutes les paupières. Donc c'était pénible pour moi de me regarder dans la glace, de voir mon visage qui change, tout ça. L'opération a été très difficile. Se faire ouvrir les paupières, c'est pas facile. J'y suis arrivée, j'espère que je vais pouvoir un petit peu mieux me regarder dans la glace. Et donc c'est pour ça que je suis là avec les sœurs dans ce séjour pour me reposer un petit peu et rigoler, et faire des bons repas et voir qu'il y a encore du monde autour de moi. Voilà. Et donc à côté de ça, la semaine, donc je fais des ateliers d'art-thérapie, peinture, sculpture. Et à travers ces ateliers-là, je peux poser des choses, je peux travailler l'image de mon corps. Je parle encore du corps parce que c'est vrai qu'en tant que femme, mon corps a été touché, j'ai fait 3 avortements. Voilà, c'est la maladie qui a voulu ça. J'ai fait 3 avortements, je préférais pas que avoir des enfants qui voient leurs parents sans arrêt à l'hôpital de jour, malades, fatigués, se traîner. Non, j'aurais pas supporté. Déjà moi, des fois j'ai du mal à me supporter, j'aurais pas pu supporter. Mais j'ai fait un métier comme aide médico-psychologique. J'ai travaillé 10 ans avec des polyhandicapés. J'ai participé à tous les ateliers. Bah, c'était un besoin pour moi de faire des choses qui m'enlèvent du mental. Donc de la peinture, tous en groupe, du chant, du piano. J'avais arrêté de faire du piano depuis un an. Et hier soir, c'est moi qui a joué du piano pendant une heure et demie. Et bon, ça m'a fait du bien. C'est une petite flamme qui s'est rallumée en moi, quoi. Je connais le groupe, hein, parce qu'on souvent, on se connaît un peu tous, plus ou moins, dans les associations, on se rencontre, dans des repas, dans des activités. Donc je connais le groupe nous connaît. On se voit changer, on se voit se transformer. On en a besoin de ces moments-là. Et puis après, on continue notre vie. Avec un peu plus de ressources, un peu plus de force. De liens, on recrée des liens. Où on dit ce qu'on a à dire, qu'on ne peut pas dire pendant des années, bah là, on a l'occasion de le dire. On peut prendre la parole. Et c'est cool de pouvoir prendre la parole, je te remercie.
Ma séropositivité en 93, j'avais un ami que j'ai perdu. Bon, je suis resté pendant 20 ans finalement avec la hantise, parce que moi j'ai appris ma séropositivité en 93 quand mon ancien ami est tombé malade. Et donc, bon, c'est vrai que je suis resté pendant 20 ans où j'avais la crainte en quelque sorte de faire des rencontres à nouveau, voire même de me refaire ma vie. Et puis bon, bah, pendant 20 ans, je suis resté enfermé dans mon cocon, quoi. Pas vraiment aller ni vers les autres. Bon, je me suis mis à ressortir au bout d'un certain temps, mais j'étais très méfiant. Et donc j'avais une vie assez monacale, mais on en était pas loin, quoi. Finalement, avec la crainte de tomber malade et de voir pire, quoi. Et en fait, bon, j'ai eu la chance, ou la malchance, ça dépend comment on se place. Enfin, moi, je dirais, j'ai eu la chance de devoir commencer les traitements qu'en 2007, en fait. Je suis resté pendant un certain nombre d'années où j'étais ce qu'on appelait à une époque les porteurs sains, c'est-à-dire que je ne développais pas la maladie, en quelque sorte. Et en 2007, à la suite de problèmes, j'allais dire personnels, j'ai perdu deux frères, pas à cause de la maladie, bien entendu, mais bon, ça a dû jouer aussi au niveau du moral, donc obligatoirement, ça baisse, dans ces cas-là, ça travaille aussi l'organisme, et donc on s'est aperçu au bout d'un certain temps, en 2007, qu'il fallait que je commence les traitements, quoi, le médecin, parce que moi j'étais quand même suivi. Depuis le début, depuis 93, je faisais des prises de sang régulièrement tous les 6 mois à peu près, et donc voilà. Et puis ben en 2012 j'ai eu un accident. Je suis tombé j'ai chuté sur la chaussée, ce qui fait que ça m'a immobilisé. Je faisais un métier où la mobilité était très importante, et bon, ben, du fait de cette baisse de mobilité, je me suis retrouvé à ne plus pouvoir travailler, quoi. Bon, cet accident a fait que j'ai dû changer de vie, en quelque sorte, et j'ai fait la reconnaissance en 2014, donc 2 ans plus tard, de mon ami actuel. Je ne pensais pas pouvoir refaire, voilà. Moi, j'habitais en région parisienne. Lui habitait sur Orléans, je suis allé le rejoindre à Orléans, et voilà, quoi. Grâce à Yvon, moi, j'ai découvert d'autres perspectives, en quelque sorte, au niveau de l'existence. J'ai découvert d'autres perspectives, et notamment le fait d'avoir pu... J'ai découvert l'association Aide grâce à lui, quoi. Ça m'a permis d'avoir une autre vision, en quelque sorte, et de la maladie, et des traitements, et tout ça, quoi. Ça m'a un peu tranquillisé, quoi. Donc, ça a un peu rééquilibré certaines choses au fond de moi, au bout du compte. Et donc, voilà. Donc, aujourd'hui, je suis militant à plein temps de Aide. Et c'est vrai que c'est passionnant, parce que ça me tranquillise un petit peu, et j'ai appris surtout beaucoup de choses. Notamment lors des formations à Aide, j'ai appris quand même énormément. je sais comment certains mécanismes, notamment au niveau des traitements et notamment au niveau des au niveau de la maladie en elle-même, quoi. Voilà. Bon, c'est vrai que je suis un peu plus heureux qu'il y a, ne serait-ce qu'il y a moins de 5 ans, je dirais, en 2012, j'étais vraiment dans le trou, quoi. Et donc c'est vrai que déjà, ce qui est très bien avec les sœurs, c'est qu'on rigole beaucoup. Ce sont des personnes qui apportent beaucoup, je dirais, au niveau... j'allais dire au niveau de l'empathie, l'amour, de l'empathie, de la... Elles apportent la joie, elles rassurent. Elles sont... Et ça fait du bien, quoi. C'est vraiment bien, quoi. C'est vraiment une belle découverte. C'est vraiment une belle rencontre avec les sœurs, de toute façon. Ça, c'est sûr.
De vie où on peut se poser, on peut poser nos bagages, mais tous les bagages, ceux surtout qu'on cache, ce qu'on vit tous les jours, les traitements, le suivi médical, la fatigue. Ici, il n'y a pas de jugement. Hier, on est allé au marché de Carpentras. Faire de la visibilité, montrer que, ben oui, les sœurs sont extravagantes, mais derrière, il y a bien plus. Les sentir à nos côtés, on se sent plus forte. En plus, il y a l'effet de groupe. Donc, la visibilité est encore plus forte. On se sent encore plus fort. Et c'est une phrase que je dis souvent, ensemble, on est plus fort. Je crois au pouvoir du collectif. Je fais partie d'un collectif de femmes. National et régional. Et moi, je suis Nathalie. J'ai 47 ans. J'ai eu 47 ans à la maison de vie, jeudi. J'ai eu ce bonheur de vieillir, de le fêter, de le partager. J'y croyais pas. Puisqu'on m'a annoncé ma séropositivité au VIH à 20 ans. Donc, je vis avec le VIH depuis 27 ans. Les 5 premières années ont été très difficiles. Les sœurs, je les ai rencontrées avant la maladie, en 89, à Paris, à Châtelet-Léal. Je devais les croiser, elles devaient faire partie de ma vie. J'avais gardé le petit dépliant avec tous les couvents. Voilà, les 5 premières années, il y a eu aussi ACT UP qui a été très présent dans ma vie, que je remercie beaucoup. Qui sont beaucoup battus pour les malades, qui se battent encore, puisqu'on a envie encore des discriminations. On vit, dans le Sud, on vit des discriminations avec les soignants. Et alors ça, on a créé un pôle ressources dans mon association, qui s'appelle RSMS, qui est Réseau Santé Marseille Sud. C'est une association qui a été créée par des médecins. On a créé un pôle ressources avec des personnes concernées et malades, pour faire remonter justement ce qui se passait, qu'on avait des kinés qui nous rejetaient, des dentistes, des gynécologues qui nous rejettent, ou des médecins de ville qui nous disent ne pas comprendre notre traitement. On se sent encore discriminé aussi. Moi, en tant que femme, souvent, ça, dans certaines associations, on voit bien qu'on n'a pas notre place, quoi. Et heureusement qu'on a créé ce collectif de femmes, réunissant Médecins du Monde, le Planning, SIDAction, Solancy, le Tipeee, RSMS, et qu'on se réunit depuis 10 ans, nous fêtons 10 ans cet été, à faire remonter nos plaidoyers, nos revendications, tout le travail qui a été mis en place pendant ces 10 ans dans les ateliers, d'écouter les femmes, de me faire entendre moi, mais d'autres compagnes aussi. On vit des choses spécifiques aux femmes, une ménopause précoce, on n'est pas égal face aux hommes. On n'est pas égal aux hommes face à la maladie, face au traitement surtout. On n'a pas le même poids, on n'a pas les mêmes organes. On a mis du temps à se faire entendre. Au début, tout le monde, hommes, femmes, enfants, on avait tous les mêmes traitements, les mêmes doses. Et on n'était pas représentatifs dans les protocoles. Donc à notre tête de notre collectif, on a choisi une chercheuse qui est du CNRS, qui est Catherine Kapuska Palmer. Une super femme, super nana. De toute façon, on est toutes des super nanas, puisqu'on est toutes en guerre contre les discriminations, contre ces a priori, ces jugements, ces étiquettes que la société voudrait bien nous mettre, mais que nous, on ne veut pas. Le ghetto dans lequel elle veut nous mettre, pute, toxico, tout ça, on n'en veut pas. Et puis même si ça a été notre parcours, on n'a pas à nous juger. Quel que soit notre parcours, on n'a pas à nous juger. Donc oui, tout ça, c'est lourd parfois. Et le plus lourd, c'est vraiment de ne pas se faire entendre. Donc on est obligé de taper du poing sur la table et on me dit « Oui, tu es toujours en colère. Oui, je suis en colère quand je suis dans la revendication. » Parce que je parle en mon nom. Mais parfois, je parle au nom d'autres personnes qui, elles, ne prennent pas la parole. Donc, je lis leurs textes, ou je lis nos plaidoyers, ou je lis nos revendications. Je monte au ministère de la Santé, je monte au ministère de la Justice à Paris, l'année dernière, au 1er décembre. J'essaye encore et encore de faire changer les choses, et j'arrêterai jamais. Je rencontre des nouvelles personnes séropositives dans mon association ou dans d'autres associations. Je suis très heureuse, il y a eu beaucoup d'avancées. On a servi de cobaye. Je suis heureuse d'avoir servi de cobaye pour eux. Aujourd'hui, ils prennent un traitement par mois, pour certains. Je suis très heureuse. Je ne suis pas jalouse, vraiment. C'est un progrès. On s'est battu pour ça. On s'est battu pour qu'ils y accèdent, pour qu'on soit entendu, pour qu'ils soient moins chargés aussi en molécules, moins chargés en dosage. Qu'on leur fasse des dosages régulier pour voir le dosage de médicaments, comment il passe dans le sang, s'il y en a trop, pas assez. Parce qu'on n'est pas que, il n'y a pas que les CD4, il n'y a pas que la charge virale, il y a plein d'autres paramètres. Entre autres, moi, le cholestérol, on ne m'a pas prévenu, quoi. On m'a changé 5 fois de molécules de cholestérol jusqu'à quand que je fasse 3 infarctus à 33 ans. Et oui, il a fallu du temps pour faire entendre qu'il y avait un souci. Et puis on est beaucoup de femmes à avoir fait des infarctus. Énormément. J'ai mis... à partir de l'an 2000, j'ai vraiment vu qu'il y avait de l'espoir et qu'on allait vieillir, qu'on allait avoir une maladie entre guillemets chronique, qui n'est pas si chronique que ça, mais bon, on vieillit. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are living for? Another man's crime behind the curtain. The show must go on. The show. Oh,
Stéphane, j'ai 52 ans, je suis séropositif depuis 1990, traité en 92. J'avais une hépatite C que j'ai enfin pu faire disparaître avec les nouvelles molécules. Donc j'ai bien eu raison de refuser l'interféron pendant longtemps, vu la nocivité de ce médicament. J'ai deux enfants en pleine santé, notamment je pense à ma fille de 27 ans, qui elle est passée vraiment au travers de l'épidémie, et sa maman non plus n'a pas été contaminée. Et j'ai un petit qui a 9 ans, que j'ai eu avec une femme séropositive, donc là il n'y avait vraiment plus aucune inquiétude à avoir, étant donné que les deux étaient traités. La maison de ville, je la connaissais parce que je suis acteur et militant d'une association qui s'appelle le Comité des Familles à Paris. J'étais déjà venu en séjour familial avec mon ami et mon fils. Je vous cacherai pas que si je pouvais faire une fois par an un ressourcement avec les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, je le ferais. J'en avais fait un il y a 15 ans dans le Vercors. Je n'ai jamais quitté les sœurs, ni de l'esprit, ni en tant que militant, pour la simple raison que, à leur contact, la bienveillance s'installe et toutes ces barrières homophobes permettent, par leur travail et souvent leur provocation aussi, de faire, j'espère, changer les mentalités. J'aimerais bien qu'on reçoive des personnes jeunes qui sont en grande souffrance, parce que moi je reçois beaucoup de personnes qui viennent d'apprendre leur statut sérologique et qui sont aussi désarmées que dans les années 90 où on savait qu'on allait mourir quelques années après. Donc je comprends bien que le météorite de l'annonce reste toujours aussi énorme. C'est pour ça que même si je ne suis pas en train de dire à tout le monde « mettez la capote, mettez la capote, mettez la capote » parce que la réalité n'est pas comme ça non plus, je dis en tous les cas, essayez d'aller vous faire dépister, faites au maximum, attention, on les connaît, hein, les dangers. Quand même, on a la chance dans cette maladie-là, qu'il y ait eu une évolution rapide de la science, et maintenant, bien sûr qu'on peut avoir depuis plusieurs années des enfants sans risquer de contaminer et sa partenaire et son enfant. Mais je voudrais rappeler surtout qu'une personne bien traitée qui a une charge virale indétectable, la charge virale c'est la quantité de virus que l'on a dans le sang, cette personne-là, si elle n'a pas d'MST, il y a des conditions, hein, que cette personne-là n'est plus contaminante. C'est-à-dire que moi, mon traitement me protège, mais protège aussi les autres.
Ce séjour, en fait, on vit intensément beaucoup d'émotions. On fait un travail aussi sur notre corps par différents ateliers qui nous sont proposés. La sophrologie, le yoga du rire. Donc, selon la période dans laquelle on est dans notre vie, c'est vrai que ça peut être plus ou moins douloureux ou plus ou moins heureux. En ce qui me concerne, je me suis rendu compte justement grâce à ces ateliers sophro et yoga du rire que j'étais pas en si mal. J'avais finalement un bon équilibre en ce moment, physique et psychologique. Donc voilà, ça m'a un peu appris cela. Le fait de toujours partager aussi nos activités au sein des ateliers, eh bien, c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas forcément l'habitude de le vivre dans notre vie de tous les jours, le partage d'une activité. Donc c'est enrichissant, et puis d'écouter, d'entendre ce que les autres ont à dire à longueur de séjour, pendant le séjour, je pense que ça va bien enrichir toutes des questions que éventuellement je pouvais me poser sur la séropositivité, comment vont les gens aujourd'hui, par rapport aussi à leur attitude pendant les activités. Enfin, moi ça m'a renvoyé pas mal de choses, mais comme je disais, il y a le pendant, nous sommes pendant encore le séjour, et il y aura le après. Et le après est aussi, à mon avis, très important, parce que je vais prendre du recul et me rendre compte un peu plus peut-être ce que ça m'apporte dans les jours suivants et un peu plus loin. De toute façon, je pense quand même que le partage, c'est bon pour nous. Parce que j'aurais pas choisi d'être là. Parce que je savais quand même qu'on allait être un petit groupe. Voilà. Alors, en ce qui me concerne aussi, plus personnellement, cette fois-ci, moi, je suis donc séropositive. Mais au niveau de ma sexualité, je suis très... Comment dire, très... ordinaire, je sais pas. Et c'est vrai que quand même, pendant mon séjour, du coup, je rencontre des gens extraordinaires. Et je suis surprise tout le temps, agréablement surprise ou pas, c'est pas tant le problème, mais c'est plutôt vivre avec des gens très différents de soi. Donc là, je suis bien servie, je crois. Mais des gens formidables, agréables... qui sont quand même la plupart à l'écoute de l'autre, donc ce qui peut permettre une bonne circulation de la communication. Et on est en train donc de former un groupe cohérent, un groupe riche, et puis un groupe qui fonctionne bien. Je suis une maman, une grand-maman dynamique, qui essaye de se maintenir en forme malgré les différentes difficultés, qui essaye de rester dans l'emploi. C'est pas tous les jours évident parce qu'on traverse des périodes de grande fatigue, traverse des périodes de grande fatigue, d'épuisement à tous les niveaux. Et d'ailleurs, en parlant de ça, ça m'a fait penser que la maison de vie accueille des familles et des personnes en séjour individuel, et que éventuellement, en ce qui me concerne, je pourrais peut-être être acceptée, puisqu'on m'en a déjà parlé ici dans cette maison, de revenir pour me ressourcer toute seule, mais à ce moment-là avec d'autres personnes que je ne connais pas, bien sûr, sur le lieu, mais aussi peut-être avec des personnes de ma famille, des enfants en l'occurrence, ce qui peut être aussi très très bénéfique pour l'équilibre, mon équilibre personnel. Parce que tout est lié. Pendant ce séjour, je suis amenée à vivre quelques jours avec les sœurs de la perpétuelle indulgence, qui sont des personnes formidables, mais tellement, tellement différentes de moi. D'autres personnes aussi qui sont, par exemple, dans l'homosexualité. Moi, je ne suis pas concernée. Mais voilà, comme je disais, ça m'apprend à m'ouvrir un petit peu à des personnes très différentes. Donc je pense que ça va m'apporter, et je vais m'en rendre compte d'autant plus dans quelques temps. Le bienfait que ça aura sur moi, parce que je suis peut-être quelqu'un en plus ou en moins, qui n'était pas forcément à l'aise avec certains types de vie, c'est difficile à expliquer. Certains mœurs que je partage pas, mais là je me rends compte que finalement ça n'a pas d'importance. Au contraire, ça me permet d'apprécier encore plus tout le monde, quoi. Donc je trouve que ça doit être sûrement ça va être très bénéfique, et ça l'est déjà, quoi, pour moi, dans ma vie de maintenant et future. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que il y a tellement, tellement de discrimination, tellement de problèmes quand même dans notre société par rapport à toutes ces différences, que j'aurais tendance à dire que chacun fasse des séjours comme ça, et puis je crois qu'après on verrait peut-être plus les différences de la même manière. Et puis merci à Stéphanie de Monaco, bien entendu, et à toutes ces personnes qui croient à l'égalité, qui croient en l'être humain.
Quelle place occupe cette semaine dans ma vie ? Eh bien, une grande place que je vais mettre dans mon cœur. Puis je vais rentrer chez moi et je vais rêver.
Merci beaucoup, mes chers enfants. À bientôt.
Et bien alors voilà, on arrive à la fin du reportage. On voulait simplement vous dire, avant de laisser l'antenne, à vous donner quelques informations, contacts et rendez-vous D'abord, si vous voulez trouver d'autres informations, ou alors pour retrouver les informations que nous on a données au début, il y a beaucoup de sites, notamment sur Internet, qui recensent l'actualité de la lutte contre le sida, mais il y en a, on voulait en proposer deux en particulier. Il y en a un qui s'appelle vih.org, c'est des publications de personnes qui sont impliquées dans la lutte contre le sida de différentes manières, et un autre qui s'appelle seronet.info, qui est un site qui est animé, je pense, par Aide, mais pareil, qui publie des actualités de la lutte contre le sida. Et puis, pour les données plus sur l'épidémiologie, sur les connaissances qu'on a à ce moment sur l'épidémie, on peut consulter le site de Santé Publique France, donc c'est santépubliquefrance.fr en un seul mot. On a évoqué aussi en tout début d'émission une enquête qui s'appelle Parcours, qui porte sur les parcours de vie et de santé des personnes migrantes, originaires d'Afrique subsaharienne en particulier, en France. Et il y a un site internet aussi qui c'est parcours-santé-migration.com.
Les associations aussi, maintenant qu'on voulait vous citer à la fin de l'émission, pour avoir plus d'infos, pour trouver des permanences, pour aussi bénéficier de dépistage. Il y a ACT UP, bien sûr, qui continue à faire des choses. Par exemple, ACT UP à Paris. Donc leur site, c'est actupparis.org, tout attaché. À Lyon, plus particulièrement, il y a le centre de santé et sexualité qui se trouve au 5 rue Griffon dans le premier. Leur numéro, c'est le 04 28 29 04 87. Et si vous pouvez les trouver sur Facebook en tapant dans la barre de recherche centre C2S. Après, il y a bien sûr le centre LGBTI qui est au 19 rue des Capucins dans le premier arrondissement toujours. Donc leur site, c'est www.centrelgbtilyon.org. Et enfin, il y a Aide, qui se trouve au 10 rue Marc-Antoine Petit, dans le 2e arrondissement. Et leur numéro, c'est le 04 78 68 05 05.
Oui, on voulait aussi vous parler des rendez-vous qui ont lieu autour de cette journée du 1er décembre. Donc aujourd'hui, il y a la marche contre le sida, donc vendredi 1er décembre à 19h, le départ est place Bellecour. Dimanche 3, il y a un apéro sérosolidaire organisé par les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence à 19h au Live Station, dans le quartier de la Guillotière. Et mardi, il y a une... je crois que je l'ai pas. Si, pardon. Mardi, il y a une conférence avec Didier Rodbétoni à 20h et la projection à 21h30 du film Zéro Patience. C'est un film qui est vraiment super, qui est très très drôle, qui démonte complètement le mythe du patient zéro. Bref, voilà. Et puis on voulait parler de la Charbon Paillette demain soir, samedi 2 décembre à Saint-Étienne, cette fameuse soirée électro organisée par l'assaut des mineurs.
Et finir cet agenda pour aller à Lille, où il y aura la première édition du festival Queeras, le festival des résistances queer et décoloniales. Il aura lieu le 9 et 10 décembre. Et donc ça a pour but de mettre en avant les productions artistiques et politiques des personnes queer LGBTI non blanches francophones. Donc je vous lis un petit extrait de leur présentation. Donc Queeras est un projet de fanzine et de création d'événements par et pour des personnes queer LGBTI qui subissent le racisme systémique pour une plus grande visibilité des personnes queer et trans non blanches, afin de définir nos besoins, créer nos espaces, organiser des soutiens locaux, des événements réguliers pour une organisation politique plus large qui prend en compte des problématiques racistes, sexistes et capitalistes sans hiérarchiser nos oppressions pour un mouvement autonome de révolte et de révolutionnaire. Donc vous pouvez lire la suite de leur présentation, le programme de l'événement sur le blog qui s'appelle Queeras, queeras.unblog.fr. Vous pouvez leur écrire un mail à queeras@gmail.com et vous pouvez participer au pot commun pour financer le festival, parce que c'est un festival autofinancé et autonome de subvention pour que le contenu puisse rester complètement libre. Donc n'hésitez pas à participer si vous le pouvez.
Et puis comme Dance Social Club ne commence pas tout de suite, on peut juste redire dire les musiques, les morceaux qu'on a entendus. C'était le premier, c'était Mickey Blanco, Ice Boogie Live. Ensuite, c'était une reprise de Show Must Go On de Queen par Sean Miley Moore. On a entendu à la fin un extrait de la chanson de Stéphanie de Monaco, Ouragan. Et la virgule au milieu, c'était Sylvester, c'était une chanson qui s'appelle I Need Somebody to Love. Et puis peut-être pour compléter, la conférence et projection mardi, ça se passe au Palais de la Mutualité, dans le 7e, 3e, enfin à côté du pont de la Guillotière, là. Et il y aura aussi un espèce de salon des associations, je crois, avant. Enfin, en tout cas, si vous avez envie de rencontrer des gens qui sont dans toutes les associations qu'on n'a pas citées, ou dans, enfin, voilà, ce sera peut-être un moment pour voir du monde. Et voilà, il y a la marche tout de suite à partir de 19h, place Bellecour, avec un apéro à 21h au centre LGBTI. Alors, à tout à l'heure.
Bonne soirée.
Bonne soirée. Et vous, la semaine prochaine, c'est Lilith, Martine et les autres. On se retrouve dans 2 semaines sur une émission sur la danse.